radio. Okapi, Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et la discipline financière? Ces questions étaient au centre de la quatrième édition de la Kazi Job Conference, un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes organisé du 4 au 6 juillet dernier à Lubumbashi par les consortiums BISMART, CFRP, le centre de formation et de réconversion professionnelle, et les DFC Congo HCDIC. On en parle dans votre émission avec monsieur Alain Poutoumola, expert en ressources humaines et formateur au centre de formation et de réconversion professionnelle. Alain Poutou, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de venir prêcher la bonne nouvelle des réconversions professionnelles qui est devenue aujourd'hui le message du temps de la fin.
Et tout à l'heure, nous aurons également en ligne M. Joseph Mutambule, qui est entrepreneur et directeur général des DFC Congo et HCDIC. Et il sera en ligne depuis la ville de Lubumbashi. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 082 567 30 95. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook d'Okapi Service. Patrick Kiasongo à la mise en onde, David Moussangou et Esther Mambou. Beauté assure les lives sur les plateformes digitales de Radio Okapi. John Tiboubois réalise cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le Bouquet Canal Plus, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Et oui, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Le chômage et les sous-emplois massifs des jeunes en République démocratique du Congo constituent un véritable, c'est une véritable bombe sociale. Des millions de diplômés produits par nos universités sont confrontés au chômage et ne savent plus à quel sein se vouer. Selon les statistiques, près de 88,6% de la population active survit dans les secteurs informels. Après les études, certains jeunes se lancent dans la plupart d'ailleurs se lancent dans la débrouillardise pour survivre parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Par ailleurs, la culture entrepreneuriale et la discipline financière sont des notions que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas, selon les experts. Alors, ces questions ont fait l'objet de la quatrième édition de la Kazi Job Conference, un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes organisé du 4 au 6 juillet dernier à Lubumbashi par les consortiums BISMART, DFC Congo et le centre de formation et de réconversion professionnelle. Nous recevons aujourd'hui monsieur Alain Poutou Mola, qui est expert en ressources humaines et formateur au centre de formation et de réconversion professionnelle, pour en savoir un peu plus. Monsieur Alain, ravi de vous avoir encore une fois aujourd'hui dans ces studios. Alors, l'emploi, l'entrepreneuriat, la discipline financière, c'est des questions épineuses et importantes dans notre pays aujourd'hui.
Laissez-moi, monsieur le journaliste, jeter d'abord des fleurs à son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Vous savez, j'ai suivi le chef de l'État à deux reprises lors de l'ouverture de la table ronde de l'emploi
et de l'entrepreneuriat des jeunes.
Oui. Je l'ai encore suivi récemment ici lors de son discours du 30 juin.
Avec le lancement du programme présidentiel des Bouge Jeunes Congolais.
Tout à fait. J'ai dit que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de nous motiver dans les travaux qu'on est en train de faire. Parce que j'ai pris le temps vraiment de le suivre attentivement. J'ai compris. Lors du lancement des états généraux de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, le chef de l'État, de lui-même, est revenu sur ce que nous prêchons ici tous les jours, l'inadéquation qu'il y a entre la formation et l'emploi. Donc, le chef de l'État tient à tout prix à ce que le taux du chômage au pays soit réduit. Et il a touché, en fait, les causes du chômage en République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, l'emploi, l'entrepreneuriat, ok, sont des outils qui préoccupent en fait toute la population.
Et la formation professionnelle.
Donc voilà, l'emploi, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat. Donc ça, ce sont les axes stratégiques. Et c'est comme ça que l'autre fois, sur ces mêmes studios, nous avons dit que nous avons pris l'option de devenir ambassadeur volontaire du chef de l'État en matière de reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi. Pourquoi ? Parce que nous avons une expertise significative dans ces domaines. Mmh. Donc, ça ne sert à rien de dire tout le temps le taux du chômage au Congo est à 98% ou à 92%. Non, mais il faut comprendre les causes. Nous vous avons dit, monsieur le journaliste, la première cause du chômage au pays, c'est cette inadéquation qu'il y a entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire, ceux qui forment n'interrogent pas ceux qui recrutent pour s'assurer que les besoins du marché de l'emploi correspondent à la formation organisée. C'est-à-dire, on a des filières dans notre système éducatif qui ne cadrent plus avec la réalité réelle du marché de l'emploi. C'est-à-dire, ce sont des filières qu'on a héritées de la colonisation alors que le marché de l'emploi a évolué. Deuxième élément, ceux qui cherchent de l'emploi, la plupart focalisent leur recherche d'emploi qu'à des postes qui correspondent aux études faites. Du moment où vous avez un diplôme universitaire qui ne cadre pas avec les besoins du marché de l'emploi, et vous, lorsque vous devez chercher de l'emploi, vous focalisez vos efforts, vous focalisez votre recherche qu'à des postes en rapport avec les études faites, alors que ces études-là n'ont rien à voir avec les besoins réels du marché de l'emploi. La troisième cause, nous avons dit ceci, beaucoup de ceux qui cherchent de l'emploi ne savent pas comment chercher et trouver de l'emploi. C'est-à-dire, les techniques de la recherche d'emploi, ne sont pas enseignées à l'université. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que la vocation de l'université, c'est pas de former un opérationnel, un exécutant. L'université donne une formation globale, une formation générale et généralisée pour former l'élite, quelqu'un à qui on dote des compétences conceptuelles, des compétences de réflexion. Mais lorsque vous devez aller chercher de l'emploi, vous avez besoin des outils pour chercher de l'emploi. Notamment, comment chercher de l'emploi, les techniques, comment analyser une offre d'emploi, comment passer l'entretien d'embauche, comment rédiger un CV conforme à l'offre pour laquelle vous postulez. Et il y a aussi la rédaction de la lettre de motivation que beaucoup confondent à la demande d'emploi. Donc, ces outils-là ne sont pas enseignés à l'université, alors que ça fait partie des outils de recherche d'emploi. Un autre élément ou une autre cause, c'est le fait que beaucoup de gens qui cherchent l'emploi n'ont pas une valeur ajoutée à leur qualification. Si vous demandez à un jeune qui sort fraîchement de l'université s'il doit chercher de l'emploi, vous lui demandez son CV, qu'est-ce que vous allez trouver dedans ? Vous trouverez que son identité, les études faites, un ou deux stages peut-être qu'il a effectués, et les langues parlées. Alors que on devrait avoir ce qu'on appelle la valeur ajoutée à la qualification. C'est-à-dire quoi ? Au-delà de votre diplôme universitaire, que ce soit les graduats, la licence, les masters, mais vous devez avoir des formations certifiantes en rapport avec l'offre pour laquelle vous postulez ou en rapport avec les profils recherchés. Mais malheureusement, ceux qui cherchent de l'emploi n'ont pas des compétences connexes à leur diplôme universitaire. Par exemple, comment pouvez-vous imaginer, monsieur le journaliste, qu'un chercheur d'emploi puisse aller vers le marché de l'emploi, mais lui n'a pas fait la formation en informatique. Il ne sait pas utiliser l'ordinateur, mais c'est quelqu'un qui cherche de l'emploi. C'est ainsi que nous avons dit, il y a la différence entre un chercheur d'emploi et un demandeur d'emploi. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chercheur d'emploi alors que votre profil ne cadre pas avec le profil recherché par les recruteurs. Alors, oui. C'est ainsi que, pour venir à votre question, nous, maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Puisque tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être mandataire, nous avons lu la Constitution qui nous donne, nous, les droits, en tant que Congolais, d'aider la nation avec notre expertise. C'est ainsi que, pour soutenir les actions du chef de l'État dans les volets emploi,
et
entrepreneuriat
et
formation professionnelle, parce que nous en avons l'expertise technique, nous avons mis en place un consortium entre DFCC, Bismart et les centres de formation et de reconversion professionnelle. Mmh. Alors, ce consortium-là vise principalement quoi? C'est-à-dire, nous avons pris l'engagement de soutenir l'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'ONEM ne travaille pas. Non, l'ONEM travaille. Messieurs les journalistes, moi, j'ai connu cette institution, j'ai commencé à m'intéresser de l'ONEM depuis 2010. Mais je peux vous rassurer, je ne suis pas le porte-parole de l'actuel DG de l'ONEM, mais moi, je suis un technicien, une personne objective. Depuis l'arrivée du nouveau DG de l'ONEM, Maître Fano, à la tête de l'ONEM, messieurs les journalistes, je sens que l'homme tient à tout prix. D'ailleurs, des réformes qu'il a apportées.
Beaucoup de choses ont changé.
Oui, non, mais ça c'est un technicien. Je vous dis que c'est un manager professionnel à la tête de l'ONEM. Et c'est pour cela que ce consortium aussi a pris la décision de soutenir les DG de l'ONEM avec les réformes qu'il est en train d'apporter
par rapport à l'emploi des jeunes.
Tout à fait, ça c'est important. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait?
Un instant, je reviens le temps d'accueillir M. Joseph Moutamboulé. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes entrepreneur et directeur général de DFC Congo et HCDIC. Vous avez organisé tout récemment la Quasi Job Conference à Lubumbashi du 4 au 6 juillet dernier. Alors dites-nous, pourquoi avoir choisi cette thématique, l'emploi, l'entrepreneuriat et la discipline financière?
Je pense que les trois thématiques marchent de pair. Un chercheur d'emploi a besoin d'économiser et d'avoir une discipline financière lorsqu'il aura l'emploi, parce qu'il doit savoir gérer son argent. Mm. C'est lui aussi qui entreprend, a aussi besoin de pouvoir être discipliné, de savoir comment gérer, sinon il tombera faillite. Donc voilà pourquoi nous avons, d'habitude, il y a des conférences que nous organisons qui sont sur l'emploi, les autres conférences qui sont sur l'entrepreneuriat et les autres sur la discipline. Mais cette fois-là, nous avons dit, mettons les tout ensemble pour pouvoir exhorter ceux-là qui sont à la quête de l'emploi de savoir comment gérer leur argent. Et je peux vous dire que ça a été un succès extraordinaire, surtout au troisième jour où nous avons mis les trois panels à part, le panel emploi, le panel entrepreneur, le panel discipline financière, et après nous les avons mis ensemble. Et ça a été un succès extraordinaire. Et nous avons été très bien inspirés. Et les contacts que nous avons et les regrets de ceux-là qui se sont déjà lancés dans l'entreprise, ceux-là qui se sont déjà lancés dans l'achat de l'emploi, étaient des regrets fondés. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient dans l'obscurité. Et là, c'est une lumière qui est arrivée. Et cette fois-là, ils peuvent très bien reculer pour mieux sauter.
Voilà, on peut dire que les trois jours, c'était le programme était intéressant. Quelles sont les activités qui ont été organisées, si vous pouvez nous rappeler, pendant ces trois jours de conférence? Allô? Je pense qu'on l'a perdu et on va le rappeler. Monsieur Alain Poutou.
Oui, alors, je disais que nous avons mis en place ces consortiums,
oui,
pour organiser, en fait, une série d'activités. Et nos activités sont des activités qui viennent en appui aux efforts, à la vision du chef de l'État. Alors, nous allons les organiser dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo.
Ah, vous l'avez d'ailleurs annoncé.
Voilà, nous avons ciblé les 26 chefs-lieux de nos provinces de la RDC. Nous organisons des job conférences, c'est-à-dire salons de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle. Alors, quels sont les objectifs que nous visons dans cela? Je prends d'abord plus de volets emploi et insertion professionnelle. Le premier objectif, c'est de mettre les chercheurs d'emploi en contact direct avec les entreprises, avec les recruteurs, au travers de leurs responsables et des ressources humaines. Pour que les entreprises arrivent à expliquer aux chercheurs d'emploi quels sont les postes pour lesquels ils recrutent. Que les chercheurs d'emploi soient déjà en contact avec les marchés de l'emploi. Ça, c'est important. Deuxième objectif, c'est identifier les métiers qui recrutent le plus souvent, c'est-à-dire les profils le plus recherchés. C'est ce que nous avons appelé enquête métier. On doit d'abord savoir les postes disponibles que les responsables des ressources humaines doivent communiquer aux chercheurs d'emploi qui sont dans la salle, mais aussi quels sont les postes qui reviennent souvent, c'est-à-dire les métiers les plus recherchés. On fait l'enquête métier. Troisième objectif, c'est de former les chercheurs d'emploi sur les techniques de la recherche d'emploi et la vente des compétences professionnelles. Une personne qui se dit chercheur d'emploi, mais qui ne sait pas comment se vendre sur le marché de l'emploi, parce qu'on est dans un marché de plus en plus compétitif. Donc c'est important de former les chercheurs d'emploi sur les techniques de recherche d'emploi, c'est-à-dire comment analyser l'offre, comment contourner les années d'expérience que les recruteurs exigent dans les offres d'emploi. Parce que si vous regardez les offres d'emploi, messieurs les journalistes, 9 offres sur 10, on exige toujours 2 à 5 ans d'expérience, voire même 10 ans.
Oui.
Maintenant, ceux qui cherchent l'emploi, qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, quand ils se retrouvent face à une telle exigence, du coup, ils font l'auto-exclusion. C'est-à-dire que la personne s'élimine d'elle-même disant que je ne correspond pas au profil ou je n'ai pas d'expérience. Alors que personne n'est né avec l'expérience professionnelle. Même vous, les années d'expérience que vous avez aujourd'hui, il y avait un jour où vous avez commencé sans expérience. Peut-être vous avez commencé comme stagiaire académique, oui. Après stagiaire professionnel, jusqu'à ce que vous avez acquis de l'expérience que vous avez. Alors, dans ces activités, nous apprenons aux chercheurs d'emploi comment contourner les années d'expérience exigées par les recruteurs en s'appuyant sur les compétences techniques et les qualités que la personne dispose. Après, il y a la formation des chercheurs d'emploi sur la conversion et la reconversion professionnelle. Là, nous insistons pourquoi ? Parce que vous avez fini en communication, mais vous ne trouvez pas des offres d'emploi ou des opportunités en rapport avec votre diplôme en communication.
Oui.
Les opportunités sont en logistique, sont en suivi évaluation, sont dans l'élaboration de projets, on cherche des gestionnaires de projets, des spécialistes en passation de marché, des contrôleurs internes, des assistants administratifs, des caissiers, des comptables ou des chargés des ressources humaines. Pourquoi vous devez vous accrocher que à vos études faites?
Monsieur Alain, quel message vous avez apporté aux jeunes de Lubumbashi au cours de cette conférence, Kazi Job conférence?
Alors, à ces jeunes-là, nous les avons appris les 7 étapes ou les 7 techniques pour chercher et trouver de l'emploi. Ça, c'était vraiment enrichissant. Deuxième message, c'est la rédaction du nouveau modèle du CV. Parce que beaucoup de gens n'ont pas appris le nouveau modèle de CV qu'on appelle le CV détaillé actualisé, qui doit avoir 10 rubriques, c'est-à-dire la 10e, ce sont les 3 personnes de référence. Il y a la lettre de motivation avec les 5 paragraphes, parce que beaucoup confondent cela à la demande d'emploi. Nous les avons aussi appris les techniques pour passer l'entretien d'embauche. Ils ont aussi appris la stratégie pour contourner les années d'expérience. Nous avons mis l'accent sur l'importance des formations certifiantes à compétences métiers mais à vocation non académique. En fait, ces formations viennent en renfort au système éducatif qui est obsolète, qui ne cadre plus pour certaines filières avec la réalité réelle du marché de l'emploi ou les exigences du terrain. Donc c'était vraiment un séminaire enrichissant et les participants eux-mêmes ont demandé à ce qu'on puisse faire
Une autre édition,
parce que les gens ont appris cela en retard. Ils ont dit, mais vous n'avez pas communiqué assez alors que c'était un séminaire, une activité indispensable. Parce que souvent, quand vous nous invitez ici, à la radio Capi par exemple, pour prêcher la bonne nouvelle de la reconversion professionnelle, on court derrière les temps. On a 30 minutes, on a 40 minutes, on ne sait pas expliquer aux gens, par exemple, comment écrire les CV. Parce que d'abord, ces gens-là ne nous voient pas.
Oui.
Donc, avec les activités comme ça qu'on a décidé de commencer à organiser, les marathons de l'emploi, les job conférences, si on est dans la zone linguistique swahilifone, nous appelons ça
quasi-job conférence.
Oui. Alors, ce sont des activités importantes. Donc, nous, volontairement, nous avons décidé, sans un appui du gouvernement, sans un appui d'un politicien, nous avons pris l'engagement d'aider les pays. Nous avons pris l'engagement de soutenir les chefs de l'État parce que nous supposons aujourd'hui que nous sommes les ambassadeurs volontaires du chef de l'État en matière de reconversion professionnelle, entrepreneuriat et formation métier.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Monsieur Basso Kwamba Gentil, vous êtes à Kananga et Maître Omar Kigalou à Kinshasa. Monsieur Basso Kwamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à toute l'équipe de la radio Capi, la radio de la paix. Bonjour à nos invités ainsi qu'à toutes les auditeurs qui nous suivent à travers la République. Monsieur Jody, avant de revenir au thème du jour, s'il vous plaît, monsieur Jody, permettez-moi de lancer un cri du cœur au nom des enseignants des 5 territoires de la province du Gâtin Central. Sauf que je suis hors sujet, mais je ne voudrais pas aussi, vraiment, s'il vous plaît.
Non, si vous êtes hors sujet, merci de garder le sujet là. Vous allez nous le communiquer. On va aborder une autre émission par rapport aux enseignants. Revenons au sujet du jour. Allons-y rapidement. Qu'est-ce que vous allez nous dire?
Oui, je proposais, ce n'est que par là, je proposais ces 4 questions vraiment, mais je vous demanderai vraiment de vous annoncer aussi cela après tout ça. Vraiment, la première question, comment promouvoir la discipline financière si l'État ne garantit pas les paiements réguliers des salaires de certains de ses agents, notamment les enseignants des territoires? Deuxième question, quelles actions concrètes le gouvernement compte-t-il mettre en place pour créer des emplois stables et durable pour les milliers de jeunes diplômés qui restent sans travail après leurs études? Troisième question, comment encourager les jeunes à entreprendre lorsqu'il manque l'accès au financement, à la formation, à l'encadrement et à des marchés viables? Quatrième question pour terminer, quelles réformes faut-il engager pour que l'emploi, l'entrepreneuriat et la bonne gestion des finances publiques deviennent de véritables moteurs du développement économique et social de la RDC? Vraiment, vous pouvez me donner aussi la parole pour vous annoncer cela?
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer par rapport aux enseignants?
Oui. Aujourd'hui, nous sommes les 10 juillet et les salaires des mois de mai et de juin ne sont toujours pas payés aux enseignants des territoires desservis par Cartas Luebo, Cartas Kananga et Cartas Luisa. Certains opérateurs IFOD, anciens opérateurs IFOD.
Merci beaucoup, on a compris. Merci beaucoup. Maître Omar Kigalou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, et bonjour à l'invité.
Bien, nous parlons de l'emploi, l'entrepreneuriat et la discipline financière. On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jeudi, du verbe que vous m'adjugez. Dès l'éliminat de mon propos, je souhaite bonne fête professionnelle à tous les avocats du Congo. Aujourd'hui, c'est le 58e anniversaire du barreau congolais. Oh. Ils sont aussi professionnels. Mmh. Je leur souhaite un plein succès.
Bonne fête. Alors, bonne fête à vous aussi, Maître Omar.
Merci beaucoup, Monsieur Jody Daniel Kachama. Alors, j'ai dit merci à Monsieur Alain Poutou. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai fait toujours mienne la pensée de Kizerbo qui disait l'intellectuel n'est pas celui qui parle plusieurs langues, qui a plusieurs...
Allô? Allô, monsieur Maître Omar? Je pense qu'il y a des soucis avec sa ligne. Peut-être que vous pouvez bouger un tout petit peu et la liaison sera rétablie. Entre-temps, on va accueillir monsieur Joseph Mutamboulé.
Et nombreux jouent lorsqu'ils entreprennent parce qu'ils n'en tiennent pas compte.
Oui,
mais... Alors, en parlant de l'étude du marché, je voudrais... Allô?
Oui, on n'a pas saisi une bonne partie de vos propos parce que vous n'étiez plus en ligne. Allez-y.
Maintenant, oui. Je disais donc, il y a un aspect important que l'invité n'a pas soulevé. Lorsqu'on veut entreprendre, il faut faire l'étude du marché. Moi, je pense que c'est l'étape préalable. En parlant de l'étude du marché, j'ai fait allusion ici aux 5 P du marketing. Premier P ou première lettre P, c'est les produits. On veut entreprendre, quel produit va-t-on présenter? Deuxième P, c'est les prix. Quel prix doit-on fixer?
Allô? Décidément, aujourd'hui, il y a des soucis avec la ligne de Maître Omar. Nous parlons de la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat et la discipline financière. On va accueillir, donner la parole à Monsieur Joseph Mutamboulé. Vous êtes là?
je suis là.
Voilà. Vous avez une réaction par rapport à la question des gentils.
Oui, je commencerai d'abord par ce que Maître Omar a dit et remonter sur le premier. Il est en train de parler de 5 P, le produit, le prix, l'étude du marché. Moi, je reviendrai pour lui dire qu'avant de pouvoir faire l'étude du marché, il y a ce que nous pouvons appeler les 5 capitaux. Je crois que j'en avais parlé la fois passée.
Oui.
Avant de faire l'étude du marché, il faudra d'abord avoir ce qu'on appelle le capital humain, suivi du capital relationnel. Le capital compétence, comme M. Alain Pout est en train de le dire, elle est très importante. Le capital savoir-faire. Et quand on renie, est le capital financier. Mais le capital financier vient en dernier lieu. Parce que le finance, on peut être associé dans une structure, dans une société, dans une affaire, avec sa compétence, avec ses connaissances. Parce que lorsqu'on n'est pas averti, c'est ce qui fait qu'on risque d'aller mal tombé. Je crois que nous en avons parlé très loin et c'était important que nous puissions organiser, disons, un tel panel. Et en revenant vers notre ami enseignant qui a parlé de comment promouvoir la discipline financière lorsque les salaires n'est pas réglé. Non, même la Bible nous dit, c'est là qu'ils sont chrétiens, la Bible nous dit qu'on est confiant, il faut être confiant dans le paix des choses. Lorsque tu n'es pas confiant, fidèle dans le paix des choses, même dans les grandes choses, tu ne seras pas confiant. Il faudra commencer d'abord par gérer le paix qu'il reçoit même à compte-gouttes, même espacé. Savoir les 1 franc, je le mettrai comment, les 2 francs, c'est pour l'investissement, les 3 francs, c'est peut-être pour payer le minervat des enfants. Donc le problème de l'espacement des salaires n'a rien à voir avec la discipline financière. Il faudra commencer par être discipliné financièrement avant de savoir gérer son argent. Il est revenu aussi pour les jeunes entrepreneurs pour dire que comment ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat sans financement. C'est cela que notre consortium est en train de faire. Je pense que M. Alain Pout qui est là et tous les panélistes qui étaient là ont vu les institutions que nous avons fait venir. Il y avait les institutions bancaires, il y avait les institutions qui donnent des crédits aux jeunes. Le problème, c'est que c'est l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Les jeunes se plaignent. Les personnes se plaignent. Ils restent dans leur coin. Ils ne vont pas aller vers ces gens-là qui sont en train de donner des financements. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'en réunissant les 4 capitaux, les 5 capitaux que je viens de réunir ici, on peut entreprendre sans finance. J'avais donné l'exemple la fois passée. Si je peux le répéter dans une minute, j'avais dit que, vous imaginez, une personne qui a identifié un vendeur de pain, mais cette personne n'avait pas d'argent. Il est allé vers ce vendeur de pain. Il lui a dit, mais écoute, moi je peux aller livrer le pain, je vois les gens venir acheter le pain tout le temps, mais moi je suis prêt. Il est allé vers le gens qui achetaient le pain, et il s'est fait comme ça plus de 200 personnes, sans argent. Mais il est allé vers l'autre côté et il avait une commission auprès de celui qui vendait le pain. Et celui à qui il livrait le pain lui avait donné aussi la commission. Qu'est-ce qui lui a motivé? Il n'avait pas d'argent, mais il avait le savoir-faire. Il avait le capital relationnel. Il avait les compétences qu'il faut. Et il a utilisé les relations humaines pour pouvoir atteindre l'objectif. Je pense que nous devons arrêter cette stratégie-là ou bien les plaintes pour dire que pour que je puisse entreprendre, il me faut tout. Bien sûr que l'argent est important pour avoir une société, mais cela vient avec le temps. Il faudrait commencer d'abord par être préparé. Voilà un tout petit peu ce que je peux répondre par rapport aux des préoccupations. Je sais qu'il a parlé le problème des diplômés d'État. Je pense que dans les discours du président de la République, dernièrement au lancement, et le ministre, ils ont parlé, ils ont encouragé les jeunes à pouvoir entreprendre et être employés pendant qu'ils sont étudiants. Pendant qu'ils étudient.
Oui.
Je pense que cela est un peu facile.
Et pendant la Quasi-Job conférence, à la fin de ces trois journées, quelles étaient les réactions des participants, des jeunes?
Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, nous recevons des personnes qui viennent et qui nous contactent pour que nous organisions un autre Quasi-Job, même dans une semaine. Et je peux vous dire que même les institutions que nous avions invitées,
oui,
sont revenues hier la plupart pour nous dire que nous participons dans les conférences, mais cette conférence a été à la hauteur parce que la matière qui était abordée était une matière très importante. Ils ont même regretté de ne nous avoir pas accompagnés, mais ils ont voulu d'abord venir suivre et après
et il nous demande de pouvoir organiser très rapidement une deuxième, disons, la deuxième conférence.
Voilà, monsieur Alain. Les réactions sont positives et monsieur Alain a annoncé que le consortium va circuler dans toutes les 26 provinces pour apporter le message de la reconversion professionnelle, la promotion de l'emploi et de la discipline financière. On va accueillir d'autres auditeurs. Éminent Mwanda depuis Bukavu et Achille Kassongo est à Manono. Éminent, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, actuellement je suis à Kalemie. Bon, je suis très heureux de cette émission parce que c'est une émission qui nous enseigne tous. Je vais d'abord commencer par des questions pour donner quelques recommandations. Ma première question est de savoir quelle est la politique gouvernementale pour réduire même 10% de chômage en RDC ces derniers temps. Deuxième question, la différence entre chômage sous-emploi et chômage déguisé. Alors, je sais très bien que l'invité a balayer vraiment la question, mais ce qui me pousse peut-être de contredire un peu l'invité, c'est quoi? C'est le système éducatif qu'on est en train d'imposer à RDC qui ne profite pas vraiment aux apprenants. Parce que quand vous voyez comment on est en train d'organiser les enseignements à l'école, depuis l'école primaire, l'école secondaire, même à l'université, où après 3 ans, quelqu'un devient licencié sans une vraiment orientation concrète. Parce que, monsieur Jody, on dit que non, c'est là qui étudiaient auparavant, ce sont eux qui se vantent qu'ils ont bien étudié. Ce qui est vrai, les études d'ancien temps, quand vous voyez un diplômé d'État, vous voyez réellement quelqu'un qui a au moins des notions pour qu'il puisse vraiment trouver quelque chose à manger, soit un entrepreneuriat en soi. Oui. Mais actuellement, les gens finissent les études sans avoir au moins une idée de créativité. On part seulement à l'université, on sait très bien, après 3 ans, je deviens déjà licencié, on commence maintenant à vadrouiller. Quand nous étions à Bukavu, c'est catastrophique. Vous aviez enseigné quelqu'un. Après 3 ans, vous allez les retrouver dans des débits de boissons. Il devient trop ivre. Il est vraiment amorti à moins de 30 ans. Alors, je sollicite au gouvernement congolais de revoir encore le système éducatif parce que c'est le système éducatif imposé ces derniers temps, monsieur Jody, ne favorise pas les jeunes à penser sur l'entrepreneuriat parce que tous, quoique après les études, c'est les bureaux. Et pourtant, les bureaux sont devenus vraiment scellés. Et c'est sur base des quotas politiques et ainsi de suite, et de beaucoup d'autres réalités. C'est pour cela que le gouvernement devrait d'abord penser sur le système éducatif afin de savoir comment réellement orienter ou soit comment aider cette jeunesse-là qui est en train d'être perdue. Parce que si vous voulez détruire une nation, il faut seulement toucher sur son système éducatif.
Merci.
Actuellement, nous sommes en train de le constater.
Merci. On va donner la parole à Achille Kassongo depuis Manono. Achille, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à tous.
On vous écoute.
Merci pour la parole. Je voudrais, avant de vous dire quelque chose, parce que souvent, ces émissions passent tout le temps à l'impôté, souvent invité, bon, après tout, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est autre chose. On dit que l'État n'engage pas, bon, alors nous qui essayons de nous débrouiller, je voudrais lancer un cri d'alarme à l'État, parce que moi j'ai fait mes achats en Zambie, des semences et des engrais, mais quand vous arrivez au niveau de la douane, là-bas, il y a la multiplicité vraiment des taxes, donc on ne sait pas vraiment comment faire. Donc, vous pouvez acheter des trucs de 1000 dollars et vous payez des frais qui vont au-delà de 1000 dollars avec beaucoup de services, des partis politiques. Tout est politisé là-bas. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment un problème pour nous qui nous débrouillons. Parce qu'on nous dit que non, l'État n'engage pas, l'État fait la promotion. Mais que l'État aide quand même vraiment dans ce sens-là parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'en sortir. Autre chose, je voudrais, parce que monsieur, votre invité qui est sur avec vous, il dit qu'il est, bon, c'est pas ambassadeur volontaire du chef de l'État, bon. Il est dans la vision du chef de l'État, dans la vision on ne connaît pas, bon. Je voudrais, si possible, avec tout le respect que je lui dois,
oui.
parce qu'il dit qu'il est ambassadeur, pourquoi ne pas approcher le chef de l'État avec son entourage pour que tout ce qu'il est en train de dire là, l'inadéquation des formations, pour que toutes ces formations-là soient intégrées dans les programmes à l'université, parce que c'est pas quand même, c'est quand même malhonnête quand, après avoir fait 5 ans ou 6 ans, 8 ans à l'université, après, on doit encore chercher à se faire former et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Donc, vous voyez que ça, c'est pas toujours bon.
Bien, alors, merci
si
beaucoup.
Lui, en tant qu'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur.
Oui.
Oui, comme il est le fameux ambassadeur du chef de l'État, s'il peut, il peut lui faire cette proposition-là. Alors, merci beaucoup.
Bien, merci. Monsieur Alain Poutou.
Alors, je commence par monsieur Achille, c'est intéressant avec ces questions. Nous sommes des ambassadeurs volontaires. C'est-à-dire, on n'est pas des ambassadeurs. Quand on dit ambassadeurs volontaires, c'est-à-dire les gens qui accompagnent volontairement les gouvernements. Parce que les problèmes, c'est quoi? C'est pas tout le monde qui doit être président de la République ou ministre, non. C'est cela les problèmes. Et d'ailleurs, même quand vous êtes dans un endroit où vous avez la décision, vous ne serez plus efficace. On est très efficace quand on est à l'extérieur. On peut apporter toute notre expertise en étant dehors qu'être dedans.
Ambassadeur volontaire.
Volontaire. Il faut qu'ils comprennent très bien que
de la vision.
Voilà, nous sommes des volontaires et nous accompagnons les trois axes, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi. Pourquoi? Parce que nous avons de l'expertise significative dans ces trois domaines. Alors, il dit que c'est très malhonnête que quelqu'un puisse passer 5 ans à l'université et puis après, quand il va chercher de l'emploi, il doit se faire former. Je pense que il n'a pas raison de ce qu'il dit. Il doit comprendre l'importance de la formation professionnelle et l'importance des études académiques. Ce ne sont pas des choses qu'on doit mélanger. Raison pour laquelle, même au niveau du gouvernement, les deux ministères ne sont pas fusionnés. Vous voyez, on a le ministère de la formation professionnelle et métiers, mais nous avons le ministère aussi de l'enseignement supérieur universitaire. On ne peut pas fusionner les deux. Les missions ou la vocation de l'université n'est pas la même que celle des institutions de formation professionnelle. Parce que la formation professionnelle, c'est même là le problème. Nous étions dehors, on était à l'étranger, on a approché une structure. En fait, c'est l'association pour la formation professionnelle des adultes. Quand on a eu des échanges avec cette institution-là à l'étranger, on a compris, c'est là que moi j'ai dit, il faut revoir les missions ou les attributions de nos services de guidance qu'on a au niveau de l'université. Normalement, lorsqu'une personne a son diplôme d'État, un enfant par exemple, qui vient à l'université pour s'inscrire, les universités devaient commencer par avoir des échanges tête à tête avec les étudiants qui viennent s'inscrire. Avoir un échange, comprendre pourquoi l'étudiant ou l'enfant veut choisir une telle filière.
Mais certains disent qu'il faut qu'il y ait un référentiel des emplois.
Oui, mais ça doit
Par exemple, le gouvernement dit, bon, on a besoin de construire, investir dans les infrastructures, on a beaucoup de projets, alors on a besoin de beaucoup d'ingénieurs civils
mais
ou tout ça.
C'est justement ça. C'est justement ça.
Et on oriente
mais
les
là,
gens par rapport
à ça. Mais lorsqu'on reçoit les gens, on doit les orienter d'abord, un, par rapport aux besoins actuels du marché de l'emploi, deux, par rapport aux besoins futurs, troisièmement, par rapport aux aptitudes de la personne. Mais faites un tour dans des universités ou dans des institutions supérieures universitaires. Vous êtes journaliste professionnel. Prenez votre micro. Faites un tour. Regardez les auditoires. Mais c'est pléthorique comme on est dans une église. Mais qui nous a dit qu'on a besoin de tous ces gens-là? C'est cela le problème.
Et
mais
c'est là, toujours plein dans les mêmes filières,
les
partout.
Les mêmes filières sont organisées dans toutes les institutions d'enseignement supérieur universitaire. Mais qui nous a dit qu'on a besoin de tous ces gens? C'est la question, en fait, que moi, monsieur le journaliste, je me pose souvent.
Oui.
Alors, si on a un référentiel des compétences, le référentiel des emplois, ça peut nous permettre de faire une projection. On peut se dire, d'ici à 10 ans ou à 5 ans, le pays a besoin, par exemple, de 15 000 juristes qu'on va absorber d'ici à 10 ans. Donc, on va s'arranger. Quelles sont les institutions qui doivent former ces juristes-là? Comme ça, on sait très bien encadrer pour qu'il n'y ait pas un pléthore de diplômés qu'on injecte sur le marché de l'emploi.
On ne sait pas absorber. Mais,
justement. Et puis, tout le monde n'est pas censé aller à l'université. Ça, il faudrait insister là-dessus, monsieur le journaliste. Il y a des gens qui doivent faire des écoles de métiers.
Des écoles professionnelles.
Les gens qui doivent faire des écoles professionnelles. Ceux qui doivent faire des institutions supérieures et ceux qui doivent faire les universités. Mais ici, on n'a pas de critères. Il suffit d'aller s'inscrire aujourd'hui à l'université. On ne vous refuse pas, on vous accepte. Et il a parlé, heureusement que lui-même est sincère, du système. Avec vous, j'en ai dit plusieurs fois ici sur ce plateau. Par moment, quand vous regardez comment l'enseignement est organisé, mais monsieur le journaliste, on forme qui? Quelle filière pour quel emploi? Comment pouvez-vous imaginer une personne qui enseigne les cours de comptabilité à l'université, de toute sa vie, depuis que celle-ci est née, jusqu'à ce que la personne est devenue enseignant à l'université. La personne n'a jamais occupé les postes d'un comptable, mais il donne le cours de comptabilité. Mais il forme qui? Est-ce qu'il forme les comptables ou il donne le cours de comptabilité? Et vous, quand vous devez aller chercher de l'emploi, les exigences que vous trouvez dans les offres, par moment vous vous posez la question, mais qui est-ce qu'on cherche concrètement? Pourquoi? Parce que on a été formé comme si on est dans une moule, sans que cette formation soit adaptée à ce qu'on doit faire sur terrain. Voyez, on ajoute parfois des cours moi j'appelle des cultures générales, qui en principe devraient être des livres qu'on doit recommander aux gens pour lire, au lieu que ce soit des cours qu'on doit enseigner à l'université.
Bien, un instant, on va accueillir Jean-Claude depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, et bonjour à notre invité Alain.
Bonjour. Quelle est votre question, Jean-Claude?
D'accord, merci beaucoup, monsieur Jeudi. Je suis content de participer encore une fois de plus à cette émission. Très capitale pour nous. En écoutant notre invité parler sur le plateau, il parle très bien de formation, il a très bien expliqué. J'ai été flatté par ses propos. Je sais que dans ces pays, il y a toujours beaucoup de gens qui parlent théoriquement, mais si je dis, sur des champs pratiques, on n'a pas un pourcentage élevé. Donc ça nous inquiète. L'État lui-même, comme monsieur l'invité qui s'est dit un ambassadeur volontaire, il devrait aussi s'approcher auprès du chef de l'État et lui suggérer certaines choses. Parce que l'État lui-même, d'abord, devrait avoir certains projets, devrait investir pour engager de nouveaux diplômés d'État, de nouveaux diplômés d'université. Mais passer toujours pas des théories sans pratique, ça nous inquiète. Non, c'est là le pays, mais si je dis. Il y a des fonctionnaires d'État qu'on a engagés, mais qui ne touchent pas les salaires au moment convenu. Tout ça inquiète. Comme dans d'autres pays, il y a, l'État organise très bien des choses. On lance des projets, on lance des marchés, on fait des offres, et les gens viennent, on les recrute sans difficulté. Mais si je prends d'abord l'exemple de ma ville de Kananga ici. Il y avait un marché de l'Athénée Royale ici à Kamayatenée chez nous. Mais on a amené les gens de Kinshasa, les architectes de Bandundu. On a laissé les architectes qui sont sur place à leur triste sort.
À leur triste sort, je dis. Et pourquoi on les a pris? Pourquoi on les a pas pris? Parce qu'ils étaient moins qualifiés que les autres?
On disait qu'à Kananga, on ne forme pas, il n'y a que des gens de Bandundu, de Kinshasa, et qui sont bien formés. On a pris ces gens-là, et bon. Et maintenant, les architectes d'ici étaient mécontents, et c'était des problèmes sérieux. Et vous voyez ce qui se passe, messieurs. C'est un problème.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va accueillir Jean-Claude. Non, c'était plutôt Jean-Claude qui était là. Jean-Arthur, vous êtes là depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité, l'ambassadeur du chef de l'État.
Je vais demander
quelques conseils.
Oui.
Oui. Je vais demander quelques conseils à l'ambassadeur.
Volontaire.
Moi, j'ai fait le commercial. J'ai fait aussi la télécommunication et gestion des réseaux. Mais maintenant, je vais faire la reconversion professionnelle, être politicien. Qu'est-ce qu'il peut me conseiller, puisque...
Vous voulez passer de quel secteur à la politique? Vous êtes dans quel secteur?
Il a fait télécom, il a fait commercial.
Maintenant, il veut se reconvertir
en politicien. Mais ça, c'est très dangereux. En politicien,
oui. Puisque en politique, ça paye en RDC, monsieur Jody. Tout ce qu'on a fait comme commercial, gestion des télécommunications, ça ne paye pas, il n'y a pas de rentabilité. Mais maintenant, comment faire pour être reconverti et en politique pour gagner plus d'argent et puis voyager partout dans le monde, construire des maisons, envoyer les enfants en Europe pour aller étudier. C'est ça ma question.
Merci. Monsieur Joseph Moutamboulé, vous avez la parole.
Je voudrais un petit peu plaider. Mais voilà le travail que nous faisons. Monsieur Alain Poutre n'est pas membre du gouvernement. Monsieur Alain Poutre n'est pas un ambassadeur nommé par une ordonnance, du moins non plus nous-mêmes. Nous sommes des privés qui faisons des plaidoiries. Nous faisons la plaidoirie auprès du gouvernement pour que ces choses-là changent. Même lorsqu'on parle du chef de l'État, s'il faut le dire, est-ce que c'est le premier chef de l'État et c'est lui qui est venu mettre en mouvement toutes ces choses-là? Moi, je pense que nous ne devons pas rester dans une position des défensives. On est frustré et on commence à s'attaquer à des gens qui apportent des idées novatrices et des idées pour aider les gens. Le travail que nous faisons, nous ne sommes pas rémunérés, on ne nous prend pas en charge, nous payons nos billets, nous nous déplaçons, nous organisons des conférences parce que nous voudrions amener notre expertise. Je pense que par rapport à M. Jean-Claude de Kananga, qui est en train de parler de problèmes de... Disons qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, nous ne pouvons pas rester dans la position où nous nous plaignons tout le temps. Je vais donner mon exemple par rapport à l'entrepreneuriat. Oui. J'ai fait le même science commerciale comme le dernier monsieur Jean-Arthur, à l'ISC. Quand j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà avant même d'avoir mon diplôme de vendre le pain. J'étais un vendeur de pain au campus à l'université de Lubumbashi. J'étais un vendeur des journaux à la criée sur le boulevard du 30 juin. Mais aujourd'hui, je suis responsable de deux entreprises. J'ai envoyé mes enfants étudier à l'étranger et je n'ai pas eu les subsistances ni l'appui de qui que ce soit. Je pense que l'état de pauvreté est d'abord un problème mental, un problème de vision. Il faudrait déjà commencer d'abord par refuser d'être pauvre parce que chacun de nous a des dons, chacun de nous a des talents qui peut transformer en argent.
Oui.
Mais quand vous prenez celui qui se plaint, celui qui est en train de dire la multiplicité des taxes, à Kasumbalé, c'est là. Mais quel est ce pays qui peut fonctionner sans taxes? C'est vrai que nous ne pouvons pas encourager ce qui se passe. Ayez peut-être l'opportunité de sortir, aller aussi à l'étranger, voir ce qui se passe. Quelqu'un qui est payé n'a pas moins, on ne lui soutire pas moins de 30% de taxes dans son salaire. C'est des taxes qui font fonctionner le pays. Je pense que nous devons nous cultiver de pouvoir refuser cette histoire de la gratuité. Toi, tu payes là, tu achètes, tu viens, tu vends. Mais l'État qui entretient tout ça, tu ne sais pas rétrocéder, ne fût-ce qu'une dividende ou un pourcentage dans les caisses de l'État. Non, ne nous habituons pas à la gratuité. Ne pensons pas qu'à l'extérieur du pays, dans d'autres pays, tout est rose. Allez regarder les statistiques, le pourcentage de chômage à travers le monde, c'est pas seulement au Congo. Je pense que nous sommes en état de guerre, nous ne défendons pas quoi que ce soit, nous ne sommes pas membres du gouvernement, mais je pense qu'il y a quand même des peu d'efforts qui sont fournis que nous pouvons soutenir et rester au lieu de rester en train de critiquer. Nous devons nous lancer à l'eau. Si tu veux être entrepreneur, messieurs les journalistes, je pense que je peux encourager nos bien-aimés, nos frères et nos amis qui sont en train de parler, de pouvoir aussi oser et de s'approcher auprès des institutions. Les crédits, on les donne et c'est réel. Le travail, il y en a, mais les gens ne sont pas équipés. Nous avons eu, par exemple, ici pour Job Cas, il y a à peu près 400 personnes dans la salle. Mais c'est Alain Poutre, lorsqu'il a fini seulement la première séance, je vous assure que 90% de ces personnes, soit à peu près 380 personnes, ont dit « mea culpa », que nous n'avons pas été préparés. Alors pour être préparé, il faudrait que l'université te prépare. Non, pas du tout. Et ces préparations se font parfois gratuitement, mais les gens ne viennent pas.
Alors,
donc n'attribuons pas toutes les fautes qu'à l'État, mais regardons-nous nous-mêmes aussi dans notre très propre lieu, nous regarder très bien si nous sommes employables réellement.
Bien, on va accueillir Elvis Londola de Kinshasa, Matete. Elvis, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour aussi à nos invités. Presque le temps est terminé. Je voulais seulement dire que c'est important de former les cadres et aussi de les équiper. Par exemple, vous allez vous retrouver qu'après les résultats ici, vous allez trouver qu'il y a du monde qui va encore remplir encore de la ville de Kinshasa. Ici encore, il y a l'étouffement, il y a le chômage, il y a tout ça. Mais pourquoi? Parce que les gens sont toujours à la recherche de la meilleure vie. Alors que même dans la province, là, il y a la vie. Mais avec quel niveau? Les gens étudient, ils ont leur baccalauréat. Mais les capacités qu'ils ont, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent se convertir à quel domaine? C'est pourquoi même il y a l'air qui a parlé là, il a dit, soit il fait le même dans la politique. Alors, mais et qu'est-ce que l'invité a dit? La politique, c'est très dangereux. Mais nous voyons que les gens qui sont même illettrés parce qu'il agit seulement, et un opposant pareil, il fait des voyages, il est bien véhiculé.
Merci beaucoup.
Je n'encourage pas ça, mais ce qui est important, quoi, que lorsqu'on forme les cadres, que aussi les conditions qui peuvent même se satisfaire de l'endroit où ils sont, qui sont aussi améliorés, cela va nous aider.
Merci beaucoup Elvis Londola. Monsieur Alain Poutou, Jean-Arthur veut faire la reconversion professionnelle.
Je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que c'est effectivement, Monsieur Joseph l'a dit ici, de la même manière qu'on décourage, on dénonce certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Vous savez, quand les gens vont en politique, c'est parce que, comme il a dit, c'est la source des revenus, le moyen le plus efficace pour se faire de l'argent, pour envoyer des enfants en Europe.
Et pourtant, toujours, c'est un apostolat.
En principe, la politique devrait être un apostolat, simplement parce que la médiocrité a élu domicile dans les chefs des gens qui font la politique. C'est comme ça que ça devient maintenant un exemple. Moi, j'appelle ça un mauvais exemple. Moi, personnellement, ça, je vous l'ai dit, la politique ne m'a jamais intéressé. Parce que j'ai compris que si vous êtes dedans, vous ne serez pas efficace. Je suis bon en étant à l'extérieur où j'apporte mon expertise technique de manière volontaire. Et c'est comme ça que quand je dis que moi je suis un ambassadeur volontaire, parce que moi je ne suis pas nommé par le gouvernement, je n'ai pas une carte d'un parti politique, je ne suis pas sur la liste d'un regroupement politique. Moi, j'accompagne les institutions qui sont en place avec mon expertise technique. Ça fait 18 ans que je suis dans des organisations internationales et multinationales, dans le domaine des ressources humaines. Je pense que c'est le temps, avec les consortiums qu'on a mis en place, qu'on puisse accompagner le gouvernement.
Parce
que
avec le projet Debout Jeunes Congolais, lancé par
les journalistes.
Ce programme
un expert, un technicien ne critique pas. Les techniciens posent les diagnostics et proposent des solutions. Moi, je ne peux pas passer mon temps ici pour tirer à bout portant contre le gouvernement, contre...
C'est pas ça.
Non. Moi, je viens avec une expertise technique. Les consortiums ici, des DFCC, Bismart et les centres de formation et de reconversion professionnelle, ces consortiums sur lesquels l'État congolais devrait s'appuyer. Voyez, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, on fait le volontariat, on fait un travail volontaire. Ce qu'on fait avec vous, déjà dans cette émission, dans d'autres pays, ce sont des master classes que les gens payent de l'argent pour écouter de telles prédications. Mais nous les faisons volontairement parce qu'on aime les pays, on veut soutenir les pays. Donc, ce que nous pouvons dire, le gouvernement, les institutions, le parlementaire, toute personne animée de bonne volonté qui veut aussi apporter sa contribution pour que nous puissions réduire sensiblement les taux du chômage, peut se joindre à nous et peut nous contacter au 082 53 90 016. 082 53 90 016.
Merci Monsieur Alain Poutoumola, expert en ressources humaines et formateur au Centre de formation et de reconversion professionnelle. Monsieur Joseph Mutamboulé, entrepreneur et directeur général des DFC Congo, merci. C'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.